Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de parler des bases de données dites NoSQL, qui, comme le nom l'indique, s'opposent aux bases de données SQL, et de voir les raisons pour lesquelles le modèle SQL n'est pas toujours adapté à vos besoins. En particulier, je commencerai par parler des limites de SQL. Je présenterai ensuite un certain nombre de bases de données NoSQL, et je terminerai en faisant une comparaison entre ces deux mondes. Les limites de SQL, il y en a un certain nombre qu'on a déjà vues de manière plus ou moins explicite. Un problème, vu dans une vidéo précédente, est le problème d'impédance. Donc c'est l'idée simplement que le modèle relationnel avec ces tables est différent du modèle de la programmation orientée objet, Python ou autre, avec ses classes et ses instances. On a des choses différentes et qu'il est difficile de brancher l'une sur l'autre. Une autre limite de SQL dont je n'ai pas vraiment parlé, c'est que le schéma de SQL qui vous donne un certain nombre de garanties, par exemple au travers des contraintes d'intégrité, peut s'avérer trop rigide dans certains cas. Quelque chose qu'on a vu de manière implicite, donc je vais le dire maintenant de manière un peu plus explicite, c'est que l'opération de jointure que j'ai présentée comme étant l'essence même des bases de données relationnelles, eh bien cette opération, elle a l'énorme désavantage d'être coûteuse, voire très coûteuse. Souvenez-vous simplement que cette opération de jointure, elle repose in fine sur le produit cartésien. Donc ça veut dire que la taille de la relation que vous allez générer, c'est le produit des tailles des relations qui participent à cette jointure. Et deux aspects dont je n'ai pas du tout parlé dans ces vidéos, mais que j'évoque brièvement comme étant d'autres limites de SQL. Un premier élément qui est la question des accès concurrents. Donc les accès concurrents, c'est simplement le fait que plusieurs utilisateurs veuillent accéder en même temps à la base de données, ce qui, au fond, est extraordinairement commun. J'ai dit que les bases de données étaient partout aujourd'hui parce que, finalement, tout site Internet qui vous permet de vous identifier par un système de login mot de passe à une base de données derrière, vous voyez bien qu'à un instant donné, vous pouvez avoir des milliers d'utilisateurs qui cherchent à se connecter, vous pouvez avoir des milliers d'accès à la base de données. Donc sur les accès concurrents, SQL est un peu limité, plus d'ailleurs sur les accès en modification que sur les accès en lecture, en consultation. C'est dû d'ailleurs aux bonnes propriétés du schéma trop rigide et aux contraintes d'intégrité. C'est-à-dire que si vous voulez fournir toutes ces garanties, tout cela a un coût. Et un coût qui peut devenir important en cas d'accès concurrent. Et un autre point que je n'ai pas évoqué explicitement, mais qui compte, c'est la question de la distribution. La distribution, c'est simplement la capacité à répartir vos données sur plusieurs machines. Et SQL, encore une fois, pour des raisons liées par exemple aux contraintes d'intégrité, est relativement peu adapté à la distribution. Évidemment, tous ces problèmes sont assez largement dus à l'émergence du big data. Pas exactement tous, le problème d'impédance n'a pas grand-chose à voir avec le big data, mais les autres problèmes listés sur son transparent sont assez largement liés à la question du big data. Parce que si vous avez du big data, vous avez besoin de répartir vos données sur plusieurs machines. Vous avez des données, donc des relations, si vous utilisez SQL, qui sont tellement grandes que l'opération de jointure, qui encore une fois est essentiellement quadratique, devient prohibitive. Souvent, quand vous faites du big data, vous avez des données bruitées, donc des données manquantes, ou un schéma qui évoluera au fil du temps, et le fait d'avoir un schéma rigide est un problème. Donc beaucoup de ces limites de SQL sont connues depuis le début. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui ont mis en place ces bases de données relationnelles n'ont pas vu venir ces problèmes, mais simplement un certain nombre de ces problèmes prennent une autre importance avec le big data. D'où l'émergence du mouvement NoSQL, qui a deux acceptions. Certains disent que c'est non SQL et certains disent que c'est pas seulement SQL. Et ce que je vais montrer en fin de vidéo, c'est que vraisemblablement, la deuxième exception est un peu plus intéressante parce que SQL et NoSQL, ce qu'on va voir, c'est qu'ils proposent des compromis différents. Et une caractéristique de NoSQL qu'on va voir immédiatement dans les transparents qui suivent, c'est le fait que contrairement à SQL, où vous avez, enfin SQL et le modèle relationnel, vous avez un modèle, une des caractéristiques de NoSQL, c'est que vous avez plusieurs types de NoSQL pour des besoins légèrement différents. Donc dans les transparents qui viennent, je vais présenter quelques familles, les familles les plus communes de bases de données NoSQL. Les bases de données NoSQL les plus populaires en ce moment sont vraisemblablement les bases de données orientées documents. L'idée derrière cela, c'est que vous allez stocker des documents qui ont la forme suivante. Ici, on imagine que ce que je veux stocker, c'est une liste d'ouvrages. Chaque ouvrage va être défini par un auteur et un titre. Et vous voyez que l'auteur lui-même va être défini par un prénom et un nom, et le titre va être défini par la langue et l'intitulé exact. Ce que vous voyez ici, donc c'est un document, donc ça représente un livre en l'occurrence. Ma base de données orientée document stockerait une liste de telles valeurs. Là où en SQL j'avais une liste de tuples, ce que vous voyez ici, c'est que mes documents moralement sont semblables aux lignes d'une table SQL, à ceci près que, comme on a vu sur le transparent précédent, j'ai une structure hiérarchique. D'accord, auteur, le champ auteur avait des sous-champs nom et prénom, par exemple. Et ce qu'on a souvent, c'est que, contrairement à SQL, vous n'avez pas de structure unique à tous les documents. C'est-à-dire que le document que j'ai présenté précédemment, vous pouvez imaginer au fond que c'est une hiérarchie de dictionnaires. D'abord, j'avais des clés auteur et valeur, et puis ensuite, pour auteur, j'avais nom et prénom, et pour le titre, j'avais la langue et l'intitulé, mais mes différents documents dans ma table, dans ma collection, n'ont pas nécessairement la même structure. Une autre grande différence par rapport à SQL, c'est que vous avez en général une notion de clé primaire qui vous permet d'identifier de manière unique un document dans votre collection, mais vous n'avez pas de notion de clé étrangère. Et plus généralement, vous n'avez pas ou peu de contraintes d'intégrité en dehors de celle de la clé primaire. Évidemment, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, l'idée est que c'est pas que les contraintes d'intégrité sont mauvaises, elles sont même plutôt agréables puisqu'elles vous donnent des garanties sur la qualité de vos données. Mais simplement, elles sont trop coûteuses à vérifier à chaque modification de votre base de données. Bon. Plutôt que ce soit la base de données qui va la vérifier, ce sera le programme qui l'utilisera, qui devra s'assurer de la validité des données. Notre grand type de base de données NoSQL, c'est ce qu'on appelle les bases de données clés-valeurs, qui, si je reprends mon exemple précédent, vont ressembler à ceci. Je stocke toujours un livre en donnant le titre, la langue de ce titre et l'identité de l'auteur. Mais ce que vous voyez, c'est que ici, c'est à plat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir auteur et titre qui eux-mêmes, à chaque fois, hiérarchiquement ou récursivement, ont des sous-propriétés, tout est à plat. J'ai une clé auteur-prénom, auteur-nom et des clés pour la langue et le titre. Mais je n'ai pas cette relation hiérarchique que j'avais dans mes bases de données orientées documents. D'une certaine manière, ça vous rapproche d'un SQL, où vous avez affaire à des tables où chaque ligne, chaque document sur mon transparent précédent a une liste de colonnes. Mais la différence par rapport à SQL, c'est que comme pour les bases de données orientées documents, je n'ai pas de schéma fixe et je n'ai pas de contrainte d'intégrité. Et par rapport à mes bases de données documents, je vais avoir des capacités de requête, de poser des questions à la base de données qui seront plus primitives, tout simplement parce que ma structure est moins riche. Mais en échange, évidemment, je vais avoir une base de données qui sera sensiblement plus rapide et plus facile à distribuer, c'est-à-dire à répartir sur plusieurs machines. Ces deux formes de base de données NoSQL, orientées documents ou orientées clés valeurs, sont les plus populaires. J'évoque une troisième famille ici qui est beaucoup moins utilisée, mais juste pour vous donner une idée de la variété au sein du monde NoSQL. Vous avez des bases de données dites orientées graphes. Ici, j'ai repris un document d'exemple d'une des plus connues, qui est Neo4j. Et comme le nom l'indique, dans une base de données orientée graphes, ce que vous allez stocker, ce sont exactement des graphes. Et ici, j'ai des nœuds qui vont représenter, par exemple, des personnes qui vont être des auteurs ou des livres. Et je vais avoir des liens entre ces nœuds qui vont être des arêtes ici, qui sont des arêtes orientées et qui peuvent éventuellement être porteuses de propriétés. Donc c'est une structure qui est complètement différente, qui, encore une fois, est vraiment une structure de graphe. C'est vraiment ça ce que stocke nativement votre base de données. Vous n'avez pas d'effort à faire. Vous posez la question de comment représenter votre graphe. La base de données vous fournit tous les éléments, avec des possibilités intéressantes de, par exemple, faire des requêtes qui portent sur les chemins, leur longueur, le fait d'avoir telle ou telle propriété sur les arêtes, etc. Regardons maintenant comment on peut comparer SQL et NoSQL. Ce qui découle des vidéos précédentes et de ce que je viens juste de présenter, c'est que le modèle relationnel a un seul modèle et le langage SQL est le langage standardisé pour l'accès à ces bases de données, alors que en NoSQL, vous avez différentes familles, différents types de bases de données. J'ai parlé orienté document, orienté clé valeur et orienté graphe. L'idée qui apparaît plus ou moins implicitement dans ce que je viens de dire, c'est que SQL est de plus haut niveau, notamment par les contraintes d'intégrité, par l'utilisation d'un langage déclaratif, tout ce genre de choses. SQL va vous donner plus de contrôle, y compris sur les performances que vous allez pouvoir obtenir. Et une dernière grande différence au quotidien lorsque vous utilisez un système ou un autre, c'est que SQL est déclaratif. On a vu que si votre programme est écrit par exemple en Python, il va falloir d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement, envoyer des requêtes SQL à votre base de données. NoSQL, les bases de données NoSQL sont en général utilisables directement depuis votre langage de programmation. Pensez simplement au fait, c'est très facile à voir sur la base de données documents et clés valeurs. Ce sont exactement déjà des structures de données de votre langage. C'est-à-dire que, par exemple, une base de données clé-valeur, c'est exactement la même chose qu'un dictionnaire en Python. D'accord ? Donc vous n'avez pas d'effort de traduction à faire entre les modèles et vous pouvez utiliser vos données directement. Un point intéressant de comparaison entre SQL et NoSQL pour essayer de situer les compromis, c'est ce qu'on appelle le théorème CAP. Alors un peu par abus de langage, parce qu'il n'y a pas de démonstration, mais j'espère que vous serez convaincus que ça dit des choses intéressantes et plus que probablement vraies. CAP, c'est un acronyme pour Consistency, Availability et Partition Tolerance. Consistency, c'est la cohérence. Availability, c'est la disponibilité. Partition Tolerance, la tolérance et la partition. Consistency, dans le cadre des bases de données, ça veut dire qu'à chaque instant, lorsque j'accède à des données, j'accède à la dernière version de ces données. D'accord ? Il faut imaginer que j'ai des milliers d'utilisateurs qui travaillent en parallèle. Certains vont lire des données, certains vont modifier des données. La consistency, ça va être l'idée qu'à chaque instant, j'obtiens la dernière valeur des données stockées. Availability, c'est l'idée que lorsque je pose une question à mon système de base de données, il me répond rapidement. Et partition tolérance, tolérance à la partition ou à la distribution, c'est la capacité que je vais avoir à répartir mes données sur plusieurs machines. Ce que me dit le théorème CAP, c'est que de ces trois propriétés, qui sont toutes souhaitables, je peux en choisir 2 sur 3, mais je ne peux pas avoir les 3. Donc, encore une fois, ce n'est pas un théorème, mais c'est assez facile de construire l'intuition pour laquelle c'est vrai. Regardez, par exemple, pourquoi consistency et availability vont rendre la tolérance à la partition différente. Si j'ai consistency, ça veut dire qu'à chaque instant, je renvoie, comme j'ai dit, la dernière valeur de ma base de données. Si j'ai availability, ça veut dire que je donne cette réponse rapidement. Vous voyez bien que je vais avoir un problème lorsque je vais essayer de distribuer sur plusieurs machines. D'accord ? Parce que quand je vais distribuer sur plusieurs machines, de deux choses l'une, soit lorsqu'on va me poser une question, je vais contacter chacune de ces machines pour vérifier quelle est la dernière valeur des données, auquel cas je conserve la consistance, mais j'ai perdu la disponibilité, parce qu'il faut que je contacte toutes les machines pour vérifier quelle est la dernière valeur qu'elles ont reçue. Et évidemment, si je décide que ce qui compte pour moi, c'est la disponibilité, ben je ne peux pas garantir la cohérence. C'est-à-dire que je peux répondre rapidement en ne contactant pas toutes les machines et en renvoyant une donnée qui peut être légèrement périmée. Donc vous voyez que si j'ai consistency et availability, je ne peux au fond ajouter que la tolérance. Je ne peux ajouter la tolérance à la partition que si je renonce à une des deux propriétés que j'avais précédemment. Et si j'essaye de représenter ça de manière un petit peu graphique, au risque d'être caricatural, la grande idée que vous devez retenir, à mon avis, c'est que les bases de données SQL considèrent que la propriété cardinale, c'est la cohérence. Et les bases de données NoSQL, en général, sont plus intéressées par l'availability. Il peut y avoir des variantes selon les systèmes exacts. Il y a plus de variétés, encore une fois, dans le monde NoSQL que dans le monde SQL, mais la propriété la plus importante, c'est l'availability. Et très souvent, la seconde propriété, ce sera la tolérance à la partition. Juste pour être clair, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un système qui est supérieur à l'autre. Il s'agit, pour moi, de dire ici que selon ce que vous cherchez à programmer, ces trois propriétés sont plus ou moins importantes et vous amènent simplement à faire des compromis différents. Prenons deux exemples caricaturaux, mais qui permettent de bien fixer les choses. Si ce que je programme, c'est un système bancaire qui manipule des flux financiers, il me semble évident que ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est la consistance de mes données. Je vais être sûr qu'à chaque instant, je connais l'état exact des flux financiers. En revanche, si ce que je programme, c'est par exemple un moteur de recherche, comme Google, ce que je sais, parce que je l'ai mesuré, c'est que d'un point de vue business, il faut que je réponde très rapidement aux requêtes. Pour le dire bêtement, si Google soudainement se met à mettre deux fois plus de temps pour répondre aux requêtes, les gens utiliseront Bing. Alors, donc, d'un point de vue business, je sais que j'ai besoin de la availability. Et d'un point de vue technique, les bases de données qui représentent l'ensemble des pages web qui existent sont gigantesques et nécessitent évidemment d'être partitionnées sur plusieurs machines. Donc, si je prends un moteur de recherche, très vraisemblablement, ce qui m'intéresse, c'est availability et tolérance. Qu'est-ce que ce serait la consistance pour mon moteur de recherche ? Ce serait d'être sûr qu'à chaque instant, il renvoie des réponses qui correspondent au dernier étage des pages dans le monde. Mais vous voyez bien que par rapport à mes deux autres objectifs, mes deux autres propriétés, c'est un objectif mineur, je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable, mais il est beaucoup plus important d'un point de vue business d'avoir la disponibilité et d'un point de vue purement technique d'avoir la tolérance à la partition. Vous voyez, d'un côté, système bancaire, je vais vraiment m'intéresser d'abord à la consistance et dans un autre cas, en l'occurrence, moteur de recherche, ce qui va m'intéresser, ce sont d'autres propriétés. Donc il n'y a pas un modèle, encore une fois, qui est supérieur aux autres. Il s'agit juste d'identifier le modèle approprié à l'application que vous souhaitez développer. Au-delà de ça, d'autres critères de choix, même si à mon avis, le théorème CAP vous dit beaucoup de choses, d'autres critères de choix, évidemment, vont être les fonctionnalités, la complexité de votre base de données, la question des performances, qui du reste est liée à la disponibilité et la partition, comme on en a parlé. Évidemment, dans le vrai monde, entre guillemets, la question du prix de ces bases de données, en ce sens, c'est pas quelque chose qui nous intéresse tellement d'un point de vue académique, mais c'est certainement aussi un critère de choix. Il y a un assez bon récapitulatif qui avait été publié sur cette page il y a une dizaine d'années, qui compare les différents modèles que j'ai présentés au fil des vidéos, modèles rationnels, documents, clés valeurs, les graphes, selon les critères de complexité, donc complexité d'utilisation, de flexibilité, de performance et de passage à l'échelle. Et si je me débarrasse des mots pour dire si la propriété est bien respectée ou pas, vous voyez ce qui se dessine ici, qui, d'une certaine manière, est un écho à ce que j'ai dit avec le théorème CAP, qui est que si ce qui vous intéresse, c'est la fonctionnalité et en particulier la consistance, eh bien vous allez aller du côté du modèle relationnel. Si ce qui vous intéresse, ce sont les performances et le passage à l'échelle, vous allez aller du côté des bases de données NoSQL, orientées documents ou orientées clés-valeurs.